France Culture.
À voix nue, Éric Lemasson, avec Israël Nizan,
gynécologue obstétricien, parce que préoccupé par la cause des femmes depuis 50 ans.
Épisode 3, le problème de la bioéthique, c'est lorsque la religion s'en mêle. Bonjour Israël Nizan.
Bonjour.
Médecin accoucheur d'humanité, c'est le titre que j'ai proposé pour cette série d'entretiens avec vous pour À Voix Nue. Parce qu'on sent chez vous comme un va-et-vient permanent entre l'idéal et le réel, entre la théorie et la pratique. Des grands principes, oui, pourquoi pas, mais en les confrontant à la réalité du geste médical. Et donc, revenons une seconde sur cette question de l'IVG et du délai légal de l'IVG. Je rappelle que récemment, le droit à l'interruption volontaire de grossesse a été gravé dans le marbre de la Constitution et que, par ailleurs, la loi a changé le délai légal admissible. La loi du 2 mars 2022 qui allonge de 12 à 14 semaines de grossesse le délai de recours à l'interruption volontaire de grossesse. Certains milieux féministes, vous l'avez dit, voulaient l'allonger davantage, pourquoi pas jusqu'au désir ultime de la mère. Et d'autres s'y opposaient fortement au nom du droit à la vie, comme ils l'appellent. Et vous, Israël Nizan, l'une de vos remarques, c'était de dire « Venez voir ce que c'est réellement un avortement, vous comprendrez ma position. Pourquoi ? »
Faire une interruption de grossesse à 14 semaines ou à 16 semaines, qui est le nouveau délai légal, c'est pareil sur le plan éthique. On interrompt une grossesse. Donc invoquer le droit à la vie, non. C'est la mère a décidé, il faut et il suffit que la mère décide pour avoir droit dans notre pays à une IVG. Il ne s'agit pas d'obérer le droit des femmes à décider pour elles-mêmes ce qu'elles font. Loin de moi cette idée-là. Mais il s'agit de dire que plus une IVG est tardive, plus elle est risquée pour la mère, en termes de complications, d'une part, que d'autre part, plus elle est tardive, plus elle est difficile à réaliser pour les médecins, que ce soit par voie chirurgicale ou par voie médicale. Chirurgicale, le fœtus est trop gros pour être aspiré dans une canule. Il faut le désarticuler et le sortir morceau par morceau. Et par voie médicale, c'est un mini-accouchement avec un fœtus qui gaspe après être né. Donc dans les deux cas, c'est un geste difficile pour le corps médical. Et d'ailleurs, il y a énormément de médecins qui se refusent à le faire. D'une part parce qu'il est risqué, et d'autre part parce qu'il est lourd psychologiquement.
C'est difficile, mais docteur, c'est votre métier, on peut vous rétorquer.
C'est vrai, mais c'est aussi mon métier de prévenir les IVG, ce qu'on ne fait pas suffisamment. Et c'est aussi mon métier que de dire que moins il y a d'IVG tardives, mieux ça vaut. Or, on s'est aperçu que quand on déplace la limite de délai, on a ce qu'on appelle un effet de marge et que toutes les IVG tardives qu'on avait à 14 semaines, désormais on les a à 16 semaines. Donc, bien dans les grandes villes où on n'a pas assez de personnel dans les hôpitaux, essayez voir à Paris d'avoir un rendez-vous pour une IVG au mois d'août. Je vais vous dire ce qui vous arrive. On vous donne un rendez-vous dans 4 semaines au bas mot. Et on vous dit, rassurez-vous, on a allongé le délai d'IVG. Ça vous rassure ? Pas moi. Je trouve que c'est un mauvais coup fait aux femmes. Il y avait dans la loi l'IMG pour cause psychosociale.
Interruption médicale
de grossesse pour cause psychosociale. Par exemple, une jeune de 11 ans qui a été séduite par le grand frère de sa copine, qui ont couché ensemble et qui cache sa grossesse à ses parents parce qu'elle a un projet de maternité avec son grand copain. Ça nous est arrivé de voir une gamine de 11 ans venir à 18 semaines. À 18 semaines, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une interruption médicale de grossesse pour cause psychosociale.
Ça, c'est admissible.
C'est dans la loi 75. Ça existe depuis toujours. Et il n'y a pas de limitation de délai. C'est un staff médical. On peut le faire quel que soit l'âge et sa semaine. On avait déjà ça. Et donc, j'avais proposé qu'on réhabilite correctement auprès des médecins l'IMG psychosocial. Mais ce qui ne plaisait pas, c'est que dans l'IMG psychosocial, les médecins ont un mot à dire, alors que dans l'IVG, les médecins n'ont rien à dire. Il faut, il suffit. Dans l'IMG, il ne suffit plus de demander, il faut aussi. Et que les médecins soient d'accord.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, il y a le droit des femmes, mais il y a d'autres droits en parallèle, parfois contradictoires. C'est celui du fœtus et celui du médecin.
Celui du fœtus, parce que se faire désarticuler, même si on n'est pas sûr qu'ils aient déjà une sensibilité. Mais le médecin, il a une sensibilité. En ce qui me concerne, j'ai pas de croyance religieuse et pas d'appartenance religieuse. Zéro. Mais me demander de faire une IVG chirurgicale à 16 semaines, je vais être mal. Je vais être, sauf si c'est un fœtus mal formé. C'est un fœtus gravement mal formé. J'ai tellement l'impression de rendre un service inouï à la mère que je vais le faire. En revanche, si c'est un fœtus normal, ben j'aurais préféré le faire à 14 semaines. C'est pas un gros mot que de dire que la technique de dilacération fœtale, qui est la technique chirurgicale de l'IVG à 16 semaines, me heurte. Et que si le grand public le voyait, il dirait mais ils sont fous ces médecins. Et d'ailleurs, la question que vous posez ramène au statut du fœtus. Pour la loi de la France, le fœtus est un objet. Vous savez qu'il y a deux catégories, les objets et les sujets. Le fœtus ne devient un sujet, dans la loi de la France, que lorsqu'il est vu et nommé, c'est-à-dire à la seconde de sa naissance. Avant cela, vous renversez une femme de 37 semaines parce que vous êtes un ivrogne et vous tuez son fœtus, elle ne peut pas porter plainte pour homicide involontaire. Parce que l'homicide concerne une personne et que le fœtus n'est pas une personne. Pour autant, il n'a pas zéro droit. Et donc...
Quelle est justement la grille de lecture du médecin qui a vu le fœtus grandir jusqu'à la naissance? À partir de quel moment, selon vous, on devient une personne, même si juridiquement on ne l'est qu'à la naissance, digne de ce nom? Je ne parle pas d'une grille de lecture religieuse, évidemment, puisque les religieux considèrent, eux, que dès la deuxième cellule, on est un être humain.
Mais on est un être humain, on n'est pas un castor à la première cellule. On est un être humain. C'est un plan de l'être humain. Et je ne confonds pas le plan de la ville avec la ville. C'est un plan qui va, si et si et si, devenir une personne. Mais c'est un être humain. En potentialité. Moi qui ai soigné des fœtus in utero, je sais qu'à partir de 20 semaines, milieu de la grossesse, quand vous piquez dans la fesse d'un fœtus, il sursaute, il a mal, il sent ce qu'on lui fait. Alors, à partir de quand, c'est un peu difficile à dire, mais à 20 semaines, milieu de grossesse, je peux vous dire, fœtus de 400 grammes, il sent ce qu'on lui fait. Donc, pour moi, il y a deux choses. Il y a l'être humain. On est un être humain dès qu'un spermatozoïde a pénétré dans un ovule. Mais pour autant, est-ce qu'on a tous les droits de la personne? La réponse est non. La réponse est, les droits de la personne vont s'acquérir progressivement au fil de la grossesse. Et on passe des caps. Le cap de l'IVG, c'est le moment où la mère ne peut plus décider si elle va laisser vivre ou pas laisser vivre. Le cap de la viabilité, c'est ce qui est à 24 semaines ou 25 semaines, c'est le moment où si on sortait le bébé, il vivrait tout seul. Il y a ainsi des caps, et le cap de la personne qui a 100% de ses droits, c'est le moment où il est né. Confondre la personne et l'être humain, c'est rentrer dans une confusion mentale. L'être humain, il est dès la première cellule. D'ailleurs, un ovule de femme, un ovule, c'est un objet, on est d'accord, c'est pas un sujet. Quand on rentre un spermatozoïde dans l'ovule, de manière injectée, on passe à un sujet. Objet, sujet, objet, sujet. Ça s'injecte à cette vitesse-là, en FIV. Quand on fait qu'on assiste la fécondation, on introduit un spermatozoïde dans l'ovule. Pour moi, un ovule et un embryon, c'est pas pareil. Pourtant, ça a la même taille, ça a le même aspect de l'extérieur, mais un embryon, je ne vais pas en faire un produit cosmétique, je ne vais pas le vendre à un laboratoire, je ne vais pas le traiter en manquant de dignité à son égard.
Alors, ce n'est pas un être, c'est pas une personne
c'est un
à part
plan,
entière.
C'est le plan, et moi qui vous parle, je vois des embryons depuis de très longues années au microscope, et chaque fois que je vois un embryon, j'ai l'émotion qui me prend. Voir un embryon humain au microscope me donne une espèce de vertige. Quoi ? Dans ce petit truc qu'on ne voit pas à l'œil nu, il y a tout un être humain avec toute sa complexité. C'est dingue. C'est dingue. Je suis encore aujourd'hui ému de voir un embryon humain. C'est un être humain, mais il n'a pas tous les droits de la personne. Et la preuve, il y a des bonbonnes d'azote liquide qui contiennent des embryons. Eh ben, il y a plusieurs endroits où il y a eu un rayon de soleil qui est arrivé sur une bonbonne mal placée près de la fenêtre et qui a perdu plusieurs milliers d'embryons. Bon, il y a des dommages et intérêts, des choses comme ça. Mais on n'est pas sur des personnes. Ce n'est pas plusieurs milliers de morts.
En l'occurrence, vous, médecin, votre regard, avec votre acuité de médecin, rejoint la loi et la jurisprudence du pays. En revanche, s'oppose fortement aux religions.
Oui. Les religions qui veulent faire de l'être humain qui a une cellule ou deux cellules, qui veulent lui conférer tous les droits de la personne, c'est schizophrène. De la même manière, à l'autre extrême du champ de la pensée, ceux qui disent « il n'y a rien dans le ventre d'une femme au neuvième mois », si elle a décidé qu'il n'y a rien dans son ventre, c'est qu'il n'y a rien dans son ventre, nihilisme, c'est schizophrène. Les deux extrêmes du champ de la pensée sont fous. Il n'y a qu'une seule option qui, moi, me séduit, c'est on est un être humain dès le départ, mais on acquiert les droits de la personne tout au long de la grossesse pour arriver à 100% le jour de la naissance.
Alors revenons à votre parcours professionnel, Israël Nizan, à vos presque jeunes années, avec ce que la presse avait nommé à l'époque les bébés éprouvettes. Nous sommes au début des années 80 et la course à la FIV, telle que vous l'avez vécue, ressemble à une sorte de compétition entre plusieurs équipes. Alors on sait que les Britanniques ont été pionniers en 77 avec la fameuse Louise Brown. Et puis en France, il y a plusieurs équipes qui s'intéressent, dont vous, jeune médecin, à ces questions. Mais vous êtes un peu... c'est une course à handicap pour vous, puisqu'à Strasbourg, on vous dit « Non, ce n'est pas possible. Je ne veux pas qu'on fasse... » Votre chef de service, je crois, vous dit « On arrête ses recherches sur la fécondation in vitro. »
Il était bien pensant et il n'avait pas envie que ce genre de recherche se passe dans le service. Mais le patron de l'embryologie, avant la naissance de Louise Brown, m'avait dit, il voyait que j'étais un jeune interne intéressé par la recherche, il était doyen de ma fac, et il m'avait dit, si tu me ramènes des ovules de femmes ponctionnées pendant une de tes interventions chirurgicales, moi j'essaierai de les féconder avec ma banque de sperme pour voir si j'arrive pas à faire des embryons. On était un an avant la naissance de Louise Brown et je suis rentré dans mon service, j'ai dit ça à mon patron, il m'a dit « il n'en est pas question ». Donc on a perdu, peut-être qu'on n'aurait pas, parce que ils travaillaient depuis 20 ans sur l'animal, ils avaient une énorme avance les Anglais sur nous, mais quand... Après la naissance de Louise Brown, j'ai à nouveau proposé de travailler sur le sujet et j'ai nouveau subi un veto accompagné de toute façon, vous n'y arriverez jamais. Et ce n'est que quand il y a eu une naissance à Clamart de Amandine, qu'enfin mon patron, contre de mauvais gré, m'a dit « Bon, allez-y, regardez ce que vous pouvez faire, mais de toute façon, vous n'y arriverez jamais. »
Ça, c'était en 1982, mais de toute façon, on vous autorise à faire ces travaux, mais il y a une sorte d'obstruction systématique qui vous est faite.
Oui. Au moment où on commence à travailler là-dessus, au moment où il me dit « feu vert », vous savez que quand on provoque l'ovulation dans le cadre d'une FIV, c'est à 2 heures près. Si vous avez 2 heures de retard, les ovaires ont ovulé, vous trouvez plus les ovules. Donc, il fallait à l'époque disposer du bloc opératoire pour pouvoir faire une cœlioscopie, mettre un tuyau dans le nombril sous anesthésie générale et aller ponctionner les ovaires avant que les ovules aient éclos. Et chaque fois, il y avait des choses au bloc opératoire. J'arrivais toujours après la bataille.
Comme par hasard.
Comme par hasard. Quand ils savaient que je voulais faire un prélèvement ovocytaire, ils traînaient dans les interventions au point que je ne pouvais disposer du bloc que trop tard.
Mais c'est des raisons idéologiques, morales, religieuses
C'était des raisons morales. Ils ne voulaient pas qu'on dise que dans son service, il y avait un veto du pape. Il voulait pas qu'on dise que dans son service à lui, encore une fois une vision de PME, ce genre de choses pouvait se passer. Donc j'ai été empêché au point que, à l'échographie, je me suis dit, et si j'arrivais à attraper ces ovules.
Oui, justement, parce que en fait, donc, vous êtes autorisé à tenter des FIV. De fait, c'est impossible puisque le bloc opératoire n'est jamais disponible. Or, paradoxalement, ça va vous conduire à imaginer une autre technique qui va, elle, devenir pionnière, première mondiale, encore utilisée de nos jours. C'est bien ça ?
Alors, à l'époque, il fallait endormir la femme et mettre un tuyau dans le ventre, ce qui est un geste plutôt agressif et dangereux. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fait ça. Le monde entier utilise ma technique, publiée dans le Lancet à l'époque, de prélèvement par voie vaginale. C'est-à-dire qu'on met une sonde dans le vagin qui est un petit guide pour l'aiguille, on a fait une petite anesthésie locale ou même une anesthésie générale, et on aligne le pointillé sur l'ovule, on pousse l'aiguille et on est dans l'ovaire en 30 secondes. Et donc la technique avait un peu de génie. Pour y accéder, il fallait avoir une contrainte externe que j'avais, et j'ai obtenu les premières grossesses par prélèvement ovocytaire transvaginal.
C'est-à-dire ça, c'est en 1984, je crois.
Première naissance, mais la grossesse fécondée en début 84, oui.
Et donc c'est grâce à au fait que vous ayez été pionnier sur l'échographie que vous mettez en place cette technique.
Oui, la technique de prélèvement ovocytaire par voie vaginale est née grâce à l'apport de l'échographie et a fait disparaître. La sécurité sociale devrait me faire une statue en or massif parce que ça coûte pas pareil un prélèvement par voie vaginale qui coûte 80 € et une solioscopie.
Alors, voilà votre passion pour le geste médical, mais revenons à votre passion, l'autre passion pour la bioéthique, les considérations, l'ensemble des considérations morales, finalement, dans votre exercice médical. Alors, il suffit pas de faire des études médicales quand on sait en plus la place dans le cursus universitaire de l'éthique, de la réflexion philosophique. Franchement, je pense que ce n'est pas grand-chose. Comment vous, en plus en ayant, pardon pour l'expression, le nez dans le guidon avec toutes ces expérimentations, comment vous avez enrichi votre champ de conscience pour avoir les outils de pensée nécessaires à avoir une boussole pour avoir un avis éclairé sur toutes ces grandes questions?
Clairement, je n'avais pas les outils quand j'ai fait mes études, mais d'être confronté tous les jours à savoir si tel fœtus doit être avorté ou non, peut être avorté ou non, être confronté tous les jours aux problèmes de filiation qui se posent dans l'aide médicale à la procréation, être confronté à des gestes qui engagent notre société, c'est pas comme si j'avais fait de la chirurgie. Je bénis le ciel d'avoir été obligé de quitter la chirurgie pour aller dans un endroit où j'ai été obligé de réfléchir au sens des actes. Parce que si on n'est qu'un technicien, par exemple en diagnostic prénatal, on dit aux parents, voilà ce qu'il a votre fœtus, à vous de décider madame, monsieur, et je fais ce que vous... Ça, c'est science sans conscience. Donc j'ai été obligé, par cette pratique du prénatal d'abord, puis de l'AMP ensuite, de réfléchir à des choses auxquelles j'aurais jamais réfléchi autrement.
Mais réfléchir, c'est une chose, mais développer vos connaissances, votre sagesse, elle ne tombe pas du ciel. Si vous avez un avis nuancé, éclairé, c'est pas simplement au regard de votre expérience. Ça veut dire aussi explorer d'autres champs de connaissances que la médecine.
Je pense que chacun d'entre nous doit pouvoir s'engager au plan éthique avec son bagage, son histoire, sa religion, sa culture, et il n'y a pas un avis éthique qui soit supérieur à l'autre. En d'autres termes, je suis contre les examens de bioéthique, parce qu'il n'y a pas une bonne bioéthique et une mauvaise bioéthique. Il y a la capacité de mettre trois idées philosophiques l'une derrière l'autre et d'étayer son point de vue. C'est ça qui m'a intéressé.
Quel a été justement votre parcours pour ça ?
Dans les discussions sur l'IVG et l'IMG, lorsque j'avais des jeunes internes devant moi qui étaient juste capables de me dire « Je suis contre ou je suis pour ?» quand on les titillait beaucoup. Je disais « Insuffisant. J'aimerais que tu me donnes ton raisonnement, ta pensée et que tu enchaînes trois idées pour justifier ta posture. » Et ça c'est faire de la bioéthique. Et n'importe qui peut le faire.
Ça veut dire aussi que on est amené à évoluer, donc à changer d'avis sur certaines questions ?
Ah, moi, j'ai beaucoup changé d'avis, et même qu'on me l'a reproché. Quand on a le malheur de commettre un livre, les gens retournent à votre livre 20 ans plus tard et vous disent « Mais vous avez dit complètement le contraire, et là, c'est complètement différent. J'ai changé d'avis sur plein de sujets, et parfois à 180 degrés.
C'est le cas notamment sur la gestation pour autrui. Vous étiez contre, au nom de principes moraux, éthiques et médicaux, et puis, presque brutalement, vous êtes devenu favorable à la GPA, la gestation pour autrui.
Pas brutalement, progressivement. J'étais contre parce que j'avais fait une enquête auprès d'une association qui s'appelait, parce qu'elle était dissoute par le préfet, Les Cigognes, qui avait pour objectif de faire se rencontrer des femmes qui n'avaient pas d'utérus et des femmes qui voulaient porter pour elles. Et quand la GPA a été interdite, cette association a été dissoute, mais j'avais quand même profité de sa présence à Strasbourg pour rencontrer une dizaine de femmes. La moitié m'avait dit « Oh, ben moi j'aimerais bien gagner de l'argent, les grossesses c'est facile, on gagne de l'argent sans rien faire ». L'autre moitié m'avait dit des choses totalement différentes. « J'ai la chance d'avoir un corps intègre, je suis donneuse de sang et donneuse de moelle, et si je pouvais rendre ce service à un couple infécond parce qu'il n'y a pas d'utérus, je serais la plus heureuse des femmes, je serais rémunérée par la joie de créer famille ». Et il y avait parmi elles plusieurs femmes très catholiques, très généreuse, qui voulait porter pour autrui. J'avais conclu mon article à l'époque en disant « Peut-être que c'est bien qu'on interdise la GPA, parce que les 5 premières, elles me gênent vraiment. » Et après, j'ai rencontré des femmes qui m'ont complètement bouleversé, et en particulier un couple de diplomates turcs basés à Ankara, mais qui avaient vécu à Strasbourg. Le premier enfant était né à Strasbourg et mort pendant la naissance. Le deuxième enfant à Ankara, et elle fait ce qu'on appelle un décollement placentaire au 7e mois. Les gynécologues d'Ankara lui sautent dessus, sortent un bébé mort, et l'utérus est sphacélé, c'est-à-dire noir, il faut retirer l'utérus. Et je vois ce couple parlant un français sans accent avec la sœur de madame venir me voir en consultation à Strasbourg. On a gardé nos ovaires, on veut que vous rejoigniez ovaires et spermatozoïdes et vous mettez les embryons dans ma sœur, et après, on habite un pavillon mitoyen à Ankara, on repart, vous n'entendez plus parler de nous, et la loi sur l'adoption à Ankara nous permet de le faire. Je suis obligé de vous dire non, parce que si je fais ça, je ne réponds pas à la loi de la France. Je leur ai donné à contre-cœur une adresse à Liège. J'ai eu 3 faire-part successivement de naissance. Et ma question, ça a été, en quoi est-ce immoral, cela ?
Certes, mais n'est-ce pas là, je me fais l'avocat des opposants, l'arbre qui cache la forêt, quand on sait que principalement la GPA n'a pas cette vocation à pallier à l'absence d'un utérus, mais plutôt à des couples qui sont des couples homosexuels qui ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement.
D'où vous sortez cette vocation-là ? La GPA, pour moi, sa première vocation, c'est de traiter l'infertilité utérine définitive. La première cause... Quand il y a une infertilité d'origine ovarienne ou testiculaire, on a des traitements. Quand une femme naît sans utérus ou perd son utérus par cancer ou par catastrophe obstétricale, on n'a rien à lui proposer et on lui dit « Non, madame, elle voit qu'à l'étranger, il y a et elle va à l'étranger. » Et rien ne l'arrête. Donc pour moi, dire que l'infertilité utérine n'a pas de solution ou n'a que la greffe d'utérus qui est une folie, je dis non, il y a une solution très simple. Prendre ce qu'on a fait à Paris, l'utérus d'une femme pour le greffer à sa fille, 10 heures d'intervention pour le prélèvement du greffon, 10 heures d'intervention pour le greffer à la fille. Ben je dis, ce serait peut-être plus simple de prendre les embryons et les greffer dans l'utérus de la mère directement. Non, il n'y a pas eu de discussion éthique en amont de la greffe utérine. Il y a une discussion à n'en plus finir sur la GPA. Je suis pour une GPA éthique et je les ai rencontrés. Je vois un jour une femme qui a perdu son utérus et son enfant dans une catastrophe obstétricale, 28 ans, les deux ont le SMIC. Et la patronne me téléphone par devers eux en disant « Ce qui arrive à mon employé est obscène. Je veux réparer. J'ai des grossesses très simples. Je vais tout payer et me faire implanter ces embryons. » Elle l'a fait. Elle était à Londres, 50 000 euros. Elle est revenue enceinte, j'ai suivi sa grossesse, elle venait avec son employé qui pleurait toutes les larmes de son corps, qui était au bord de l'échographie, qui caressait la face latérale du ventre parce qu'il y avait son bébé dans ce ventre-là. Quand elle a accouché, il y avait le mari et les deux enfants de cette femme. C'est bien hein, ce qu'elle fait notre mère. Hein, bravo. J'ai mis l'autre femme dans la même chambre. Et quand j'ai passé la visite, cette patronne m'a dit « J'ai vu que vous allez sur les estrades. Bah, dites-leur bien à tous ces messieurs qu'on peut faire ça par collaboration et par envie d'aider l'autre. J'ai tout payé. J'ai tout payé. Je suis une nounou prénatale. Est-ce que c'est moins bien d'être une nounou prénatale que d'être une nounou postnatale? Est-ce qu'il se passe plus de choses entre un fœtus et sa mère qu'entre un enfant mis en nourrice et sa nourrice? Bien sûr que non. Je serai à tous ses anniversaires et je suis très fier de ce que j'ai fait. Cette femme, elle mérite une statue aussi. Vraiment. Elle mérite qu'on dise bravo pour ce que vous avez fait. C'est extraordinaire. C'est un cadeau infini.
Pour quelles raisons alors vous avez des adversaires au sein même de votre profession qui ne surfent pas sur la même ligne de crête que la vôtre, c'est-à-dire d'être dans cette nuance-là, dans cette position équilibrée entre les positions de principe et la réalité du terrain que vous venez de décrire? Pourquoi c'est si difficile d'être dans cette nuance?
D'abord, il y a beaucoup de gens conformistes qui ne souhaitent pas afficher une opinion qui pourrait... faire en sorte qu'il soit moins bien vu. Je pense qu'il y a beaucoup de conformisme. Mais je note quand même, dans les 10 dernières années, que l'opinion publique a changé. 65 à 70% des gens sont favorables à la GPA médicale. Et parmi les médecins, c'est pareil. De plus en plus de médecins se disent « Mais pourquoi on envoie ces gens à l'étranger dans des réseaux mafieux affreux au lieu de faire ça bien et propre chez nous ?» On n'envoie pas non plus les gens qui veulent adopter un enfant à l'étranger. Et pourtant, il y a des enfants qui sont volés en Sibérie et vendus chez nous. On n'envoie pas à l'étranger les gens qui ont besoin d'une greffe d'organes. Et pourtant, il y a des organes qui sont volés et greffés à des gens riches. On fait ça propre chez nous pour la greffe d'organes, pour l'adoption. Faisons propre chez nous pour la GPA. C'est très important.
Cette capacité qui est la vôtre, Israël Nizan, à vulgariser, à être pédagogue sur ces questions complexes, vous a conduit à vouloir la partager. Nous verrons dans un prochain épisode que dans votre ville de Strasbourg, non seulement évidemment vous avez dirigé les maternités publiques de la ville, mais vous êtes parti aussi à la rencontre des adolescents dans les collèges et les lycées pour leur parler de sexualité, de pornographie. Et par ailleurs, nous le verrons dans un épisode prochain, une fois élu au conseil municipal de Strasbourg, d'ailleurs peut-être que la politique vous a tenté, on en parlera, vouloir organiser chaque année un grand débat citoyen que vous appellerez le Festival de Cannes de la bioéthique. Alors, on en parlera demain, Israël Nizan, pour l'épisode 4 de cet À voix nue, épisode intitulé « Je longe le précipice et ça ne me dérange pas ». Merci et à demain.
À demain.
C'était À voix nue avec Israël Nizan. Réalisation Yaël Mandelbaum, prise de son Virginie Lorda, chargée de programme Daphné Abgral. Une série proposée par Éric Lemasson, disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.